RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'était le 25 mars 1957. Les dirigeants européens réunis à Rome signaient les traités créant la Communauté économique européenne, CEE, et la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom, deux textes fondateurs de l'Union européenne. 60 ans plus tard, le projet européen est menacé par de nombreuses crises. Les partis populistes ont le vent en poupe sur le continent et le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'Union. Alors où en est le projet européen? Quid de son avenir? La construction européenne dans la tourmente, un grand reportage signé Johanna Hochstein.
Donc tout ça, c'est nos locaux. Et là, c'est l'affiche de notre campagne, vous voyez. Donc ça, c'est... On travaille en open space. Et bonjour Marie.
Nous sommes dans les bureaux de l'Union pour l'Unité, l'un des quatre syndicats de fonctionnaires européens. Georges Vlandas, son président, travaille au service de l'Europe depuis plus de 20 ans. Il a 64 ans, il pourrait partir à la retraite. Et pourtant, il ne veut pas quitter le navire pris dans la tempête.
Moi, je ne veux pas battre en retraite. Je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires européens qui, parfois, par dépit, ont quitté l'institution au moment où leur savoir-faire, leur mémoire, dans ces temps de crise, aurait été très utile. Le fait que la construction européenne connaisse des balbutiements, que le budget communautaire soit en baisse, qu'on assiste à une contestation même de la construction européenne est un sujet d'inquiétude et de problème chez les fonctionnaires européens. Parce que nous ne pouvons pas faire abstraction du fait que même s'il y a une majorité des citoyens qui sont en faveur de l'Europe, il y en a quand même 40% qui ne sont pas en faveur et il y a 80% qui estiment qu'on va dans une mauvaise direction.
Même sentiment d'inquiétude au café du coin où on a rendez-vous avec Chris Jones. Il est fonctionnaire britannique. Sa vie a complètement changé le 23 juin dernier.
Le lendemain du vote, je me rappelle que j'étais complètement tétanisé par la décision, très déçu aussi, fâché. Je reste toujours fâché par ce que je vois d'ici en moins comme une décision tout à fait idiote qui ne cesse de devenir encore plus idiote à mon avis. Il y a vraiment l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête, qui vraiment pour dire voilà, au bout d'un moment, est-ce que j'aurai toujours le droit de continuer de faire ce travail? Moi, j'ai parlé avec beaucoup de mes concitoyens, mes collègues britanniques. On parle beaucoup de est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a une grand-mère irlandaise ou française ou estonienne, je ne sais pas quoi. On cherche tous une autre voie pour rester. Donc c'est préoccupant dans ce sens-là.
Nous nous rendons maintenant chez Paul Colovald. Lui a quitté les institutions il y a une trentaine d'années. Il est aujourd'hui âgé de 93 ans. Il a été l'un des premiers journalistes accrédités à Bruxelles avant de rejoindre le Parlement européen en tant que directeur de cabinet du président de l'époque. Au-dessus de son canapé, une photo en noir et blanc. Elle date de 1953. Au premier plan, Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de la construction européenne. À droite, Paul Colovald.
Je suis un Européen impatient, inquiet, mais pas résigné. Ah, le sentiment d'inquiétude, depuis quelques mois, va en augmentant. Parce que, comme vous le devinez, j'ai un certain âge, donc j'ai connu toutes les crises, depuis la Communauté européenne de défense, la chaise vide, enfin, j'ai tout connu, et y compris plus récemment les crises économiques, financières. Mais elles se succédaient très souvent dans le temps, et quelquefois, on avait des relances. Et on se disait, ah, ça y est, on s'en est sorti, on avance, etc. En face des grands défis que nous avons actuellement, je ne vois pas la consistance d'un message qui pourrait remobiliser l'opinion publique, et les hommes politiques d'aujourd'hui n'ont plus tellement de courage et n'ont plus tellement de vision. Parce que le 9 mai 50, c'est un sacré courage de dire on crée une communauté à la sortie d'une guerre. Vainqueurs et vaincus se mettent autour d'une table pour créer une communauté avec une égalité de droits. Et on va se mettre autour d'une table pour construire l'unité européenne. C'est une plaisanterie de dire que la France seule, l'Allemagne seule, l'Italie seule peuvent faire face aux défis d'aujourd'hui. Donc, le partage de la souveraineté est depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, c'est une nécessité impérative. Or, au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit aujourd'hui que, moi je suis très inquiet, pour reprendre le terme, sur la capacité de créer une Europe puissance, puisque ça tire à India en ce moment, et que chacun se crispe sur sa souveraineté.
Aucun endroit ne pouvait mieux convenir que la ville éternelle pour être le précieux témoin de nos espoirs.
Le 25 mars 1957, Paul-Henri Spaak annonce la naissance de l'Europe. Il est à l'époque le ministre belge des Affaires étrangères et préside la conférence intergouvernementale pour le marché commun et l'Euratom.
Rome, qui a la vocation de l'universel, devait être le seuil de l'Europe. Savourons un moment de triomphe au Capitole, sans oublier la phrase que l'esclave murmurait aux généraux vainqueurs. Souviens-toi que tu es mortel. Dans la fragilité humaine et dans le succès de cette grande entreprise, dans cette heure apaisée et heureuse, tâchons de léguer au futur la source d'inspiration que nous puisons dans l'immortel passé.
L'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas viennent de signer deux traités. Le premier crée la Communauté économique européenne qui vise à établir le marché commun. Le second, la Communauté européenne de l'énergie atomique. Objectif, comme son nom l'indique, fonder une industrie nucléaire européenne. Pour Catherine Lalumière, ancienne eurodéputée, ancienne ministre, actuellement présidente de la Maison de l'Europe à Paris, c'est dans la mise en application de ces traités que l'on a fauté.
La mise en application du traité de Rome a été faite de façon un peu aveugle et maladroite, en ce sens que on a tout misé sur les questions économiques. On a fait de ce traité uniquement un traité économique et pour certains, circonstances aggravantes, c'était l'économie libérale, c'était la concurrence pure et dure, etc. Bon, mais on a oublié que les pères fondateurs, au départ, n'avaient pas mis l'économie en priorité. Le point de départ du projet européen, c'est un projet que je qualifierais de philosophie politique, avec des valeurs, avec les droits de l'homme, avec la démocratie, avec le respect de l'autre, l'esprit de réconciliation, l'esprit d'ouverture, etc., etc. Et à partir du traité de Rome, les acteurs se sont précipités sur les dossiers économiques, ils avaient d'ailleurs fort à faire, c'était très important, mais on a donné l'image d'une Union européenne qui ne s'intéresse que de questions matérielles, matérialistes même. Et toute la partie valeurs, les droits de l'homme, la philosophie de la démocratie, etc., bon, c'était considéré comme allant de soi, mais on n'y travaillait pas beaucoup. Et le résultat, c'est que les citoyens ont une vision très froide. Pour employer le mot de Elie Barnavi, il a parlé de l'Europe frigide. Et nous avons à remonter 60 ans d'erreurs de présentation et d'erreurs dans les priorité de l'Union européenne.
Rattraper les erreurs, relancer le projet européen, on en débat un peu partout à Bruxelles en ce moment. Aujourd'hui, c'est le parti des conservateurs, la droite européenne, qui présente ses propositions à la presse. Herman Van Rompuy est au pupitre. Il a présidé le Conseil européen, l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, entre 2010 et 2014, au plus fort de la crise économique et financière.
Quand j'étais président du Conseil européen, effectivement, la question posée par une partie de la presse, surtout anglo-saxonne, c'était pas si l'eurozone éclaterait. Là, ils étaient convaincus qu'elle éclaterait. La seule question qui se posait, c'était, est-ce avant Noël 2012 ou après? Nous sommes maintenant après Noël 2016 et rien ne s'est passé. Au contraire, la zone euro est stable, plus stable que jamais. Et donc il faut se méfier de catastrophisme. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles parce que si on n'avait pas réussi à stabiliser la zone euro, eh bien c'était non seulement la fin de la zone euro, mais ça pourrait être aussi la fin de l'Union européenne. Ça ne s'est pas passé.
Avancer à 27, rester unis malgré le départ des Britanniques, c'est tout l'enjeu des discussions qui vont se tenir à Rome. Pour préparer les débats, la Commission européenne présente un livre blanc sur l'avenir de l'Europe devant les eurodéputés réunis en session plénière.
Passiamo ora al primo punto dell'ordine del giorno che riguarda la dichiarazione del presidente della Commissione sul libro bianco sul futuro dell'Unione. Presidente Juncker a la parola.
Mr. President, honorable members of this house, ladies and gentlemen.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, met en avant 5 scénarios. L'un d'eux, une Europe à plusieurs vitesses, comprenait la possibilité offerte à quelques pays d'avancer dans certains domaines sans être freinés par les autres. C'est la solution pour sortir du marasme actuel. Selon l'eurodéputé français de centre droit, Alain Lamassoure, il siège au Parlement européen depuis 1989.
L'image que nous avons en tête, c'est un système à 3 cercles. Il y a le cercle de voisinage, il y a le cercle de copropriété, et puis il y a la famille. Le cercle de voisinage, c'est la périphérie, c'est les voisins. Avec les voisins, nous souhaitons avoir de bonnes relations. Sans plus. On fait du commerce, on est en paix, on fait des échanges intellectuels, de tourisme, etc. Puis, il y a la copropriété. La copropriété, la maison commune européenne en copropriété, c'est l'Union européenne actuelle. Quels sont ceux des 27 pays, une fois que nos amis anglais sont partis, qui sont satisfaits de ce règlement de copropriété? Ça n'est pas mon cas. Ça n'est pas le cas d'une majorité de Français. Nous, nous voulons un troisième cercle qui est le noyau central, qui est la famille. La famille, ça veut dire des valeurs communes, des objectifs communs et une solidarité à l'égard de ceux qui sont en difficulté et la mise en commun de moyens financiers pour préparer notre avenir commun. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'Europe à géométrie variable, l'Europe à la carte. L'Europe à la carte dans laquelle chacun ne prend dans la famille que ce qui l'intéresse et laisse tomber le reste, c'est le contraire de l'esprit familial, c'est le contraire de la solidarité. Nous unissons nos destins, nous les unissons en matière de politique étrangère, en matière de défense, en matière de nouvelles technologies, en matière de politique démographique et migratoire, ou bien alors nous en restons à la copropriété, chacun est chez soi, on finance simplement les parties communes et puis chacun mène sa vie dans l'ignorance de ce que font les autres.
En haut de l'hémicycle, on ne partage pas du tout cette vision. Les députés eurosceptiques s'étranglent quand on évoque les commémorations du 25 mars à Rome et le futur de l'Europe, à commencer par Bruno Gollnisch.
Merci Monsieur le Président. Avant le traité de Rome, chacun sait, il y a eu le traité de la communauté économique du charbon et de l'acier, qui fait partie des 3 traités constitutifs de l'Union européenne d'aujourd'hui. Le résultat dans mon pays est clair, il n'y a plus de charbon et il n'y a plus d'acier. Puis il y a eu les 2 traités de Rome, le traité prévoyant la communauté européenne de l'énergie atomique, dit traité Euratom. Le résultat est clair, aujourd'hui il n'y a plus de coopération atomique puisque l'Allemagne a décidé de renoncer à l'énergie atomique, ce traité est donc en pratique caduque. Et puis il y a eu le fameux traité, le grand traité de Rome, le marché commun agricole notamment, qui devait garantir, moyennant une raisonnable protection sur tout le pourtour de l'Union, des prix supérieurs au marché, aux cours mondiaux pour nos agriculteurs. Le résultat est clair, dans mon pays, 4 exploitations sur 5 ont disparu et des agriculteurs se suicident tous les jours. Alors, en présence d'un tel échec, il faudrait évidemment réfléchir. Monsieur Juncker a fait un effort de réflexion qui est intéressant avec les 5 scénarios qu'il propose. Je pencherai personnellement pour le 4. C'est-à-dire faire moins de choses.
Toutes les strades portano qui, da ogni angolo del continente. Toutes les strades si incrociano qui, intrecciando il destino di un mucchio di gente.
Je suis Paolo Bergamaschi, je suis un des conseillers politiques du groupe des Verts. J'ai toujours aimé faire de la musique, écrire, et j'essaie de mettre les grandes questions européennes en musique. C'était un effort que j'ai fait aussi pour essayer d'impliquer les gens aux questions européennes.
Dimmi, 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 dimmi perché non sono sicuro se questa città dell'Europa è il cuore. Oppure solo il buco del... Qui gli euro si inventano, gli euro si sprecano, non mancano mai all'appuntamento.
Dans cette chanson, ce conseiller politique italien critique le mode de vie des fonctionnaires européens. Selon lui, ils auraient un rôle primordial à jouer pour combler le fossé grandissant entre les institutions et les citoyens européens.
Les gens à Bruxelles qui travaillent dans les institutions européennes vivent dans ce qu'on appelle la bulle européenne. Ça veut dire qu'ils restent toujours entre eux, ils parlent entre eux et la plupart des fois ne se rendent pas compte de ce qu'est la vie pour les personnes normales, les gens, les citoyens qui sont à l'extérieur des institutions européennes. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe, certaines fois, n'est pas compris par les gens. Moi, j'obligerais vraiment les fonctionnaires européens à sortir des institutions, retourner au pays d'origine au moins une fois par mois pour se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur. Ils doivent essayer vraiment de parler, de dialoguer avec les citoyens européens.
Juste en face du Parlement européen, la place du Luxembourg, Plux, comme on l'appelle ici. Le jeudi soir, elle est bondée. Pour les jeunes européens qui font leur stage dans ou autour des institutions, venir y prendre l'apéritif est un véritable rituel.
Moi, c'est Brianna, je travaille dans un cabinet de conseil à Bruxelles en affaires européennes, j'ai 25 ans.
Et Annabelle, je travaille pour l'Agence française de développement qui a une représentation ici à Bruxelles.
Vous êtes la génération qui va bientôt construire les politiques européennes. Qu'est-ce qu'il faut faire que les autres, les anciens n'ont pas réussi à faire pour améliorer l'image de l'Europe?
Il y a un énorme travail de pédagogie à faire juste pour que les gens sachent de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent d'Union européenne et d'Europe, parce qu'à chaque fois, je suis toujours étonnée en France juste du manque du niveau de connaissance de ce que c'est que même l'Union européenne à chaque fois. Et c'est justement les hommes politiques qui en jouent énormément, parce que lorsqu'ils disent oui, Bruxelles nous impose ci, nous impose ça, on a l'impression du coup que c'est des dirigeants non élus qui décident de tout, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, et que du coup, à un moment donné, il faut arrêter de faire ce jeu de condamnation en permanence. Oui, Bruxelles nous impose ça, alors que ça a été décidé au Conseil par les États eux-mêmes.
Maintenant, on pourrait peut-être essayer de capitaliser sur les qualités que ça apporte, sur la qualité de vie qu'on a aussi grâce à l'Union européenne. On est quand même protégé par rapport à des imports de produits, par exemple, qui peuvent être extrêmement nocifs pour la santé. On n'en parle pas. Et que c'est pas juste une technocratie nébuleuse où on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas qui choisit quoi. Il faut communiquer sur le positif.
L'Union européenne s'est toujours construite à travers les crises. Celle-ci est plus profonde, mais n'est que passagère, veut-on croire ici. Parce que pour ces jeunes, il n'y a pas de futur en dehors de l'Europe. La construction européenne dans la tourmente, un grand reportage de Johanna Hochstein, réalisation Lorenzo Lacchesi Dani.
Ma tu dimmi, 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 dimmi perché non sono sicuro se questa città dell'Europa è il cuore oppure solo il buco del, oppure solo il buco del. Oppure solo il buco del culo.
Une semaine d'actualité.